Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 169. Et aujourd'hui, on va parler de coaching entrepreneurial et de pourquoi je pense que c'est important d'apporter une approche féministe.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur parce que depuis quelques moi, déjà, j'ai reçu ma certification en coaching féministe avec l'école de Kara Lowenthal, qui est une ancienne avocate litigatrice dans les droits reproductifs aux États-Unis. C'était une postdoc et une enseignante à Harvard et elle a fondé sa compagnie de life coaching avec un cursus féministe parce que justement, il y avait beaucoup de, disons, divergences ou du moins potentiels de blessures qui étaient perpétuées dans plusieurs des industries du coaching. Puis là, on peut penser à certaines industries comme l'image corporelle, la santé, les finances, même au niveau genre de la santé mentale, etc., etc. Et pour moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé le fait d'avoir une approche féministe intersectionnelle dans le travail de coaching que je fais parce que, bon, non seulement je travaille avec des femmes et des personnes qui sont souvent dans des situations de pression systémique, mais je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre comment on se positionne dans les différentes intersections du pouvoir et surtout quand on a un accès à des personnes qui sont en position de vulnérabilité, comme souvent on va l'être quand on est dans une position de coach. Comment est-ce que je peux créer un espace plus sécuritaire pour mes clients, pour moi-même aussi naturellement, mais aussi pour ne pas perpétuer de l'exploitation ou de l'oppression dans les cercles que je crée moi-même et que je crée pour faire du bien et que par inadvertance, parce que j'ai certaines identités, parce que je suis née dans certaines intersections identitaires, je pourrais être aveugle à ça. Naturellement, je pense pas que je suis tout à fait patte blanche, que j'ai rien à me reprocher ou que c'est même une histoire de se reprocher quoi que ce soit. Hein. On fait toujours du mieux qu'on peut. Mais pour moi, cette réflexion, elle était centrale à la façon dont moi, je voulais avoir un impact à travers les espaces que je créais, les espaces de guérison, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, que je crée des espaces de guérison pour entrepreneurs, pour qu'elles trouvent des façons de mieux vivre avec leurs entreprises. Et pour moi, ben le féminisme, même si c'est quelque chose qui m'est venu quand même assez tard, je dirais, dans ma vie, là, vers ma fin vingtaine, c'est une lunette à travers laquelle je peux avoir des réflexions beaucoup plus profondes et beaucoup plus alignées avec ma façon de comprendre le monde, de comprendre c'est quoi être une femme qui évolue dans le monde et comment je voulais justement laisser une marque à travers ça. Donc aujourd'hui, je voulais parler de spécifiquement cet aspect-là, parce que depuis quelques mois, je m'appelle coach business féministe et je pense que ça va changer bientôt. Je vous en reparlerai dans un autre épisode, mais bref, il y a un gros processus aussi de décolonisation autour de l'industrie du coaching qui est en cours en ce moment. Mais bref, ça, c'est une autre conversation, comme je viens de dire. Et je voulais vous présenter un peu comment je conçois la chose et pourquoi je pense que c'est vraiment important d'ajouter cet aspect à notre réflexion entrepreneuriale, même si vous n'êtes pas coach, même si vous ne vous considérez pas féministe, mais si vous vivez dans une identité qui est présentement dans... En gros, si vous n'êtes pas un homme blanc riche, je pense que ça vaut la peine d'écouter puis de au moins être confrontée à cette réflexion, parce que je pense que vous allez peut-être commencer à mettre certaines pièces du puzzle ensemble. Du moins, ça a été ça mon cas quand j'ai ouvert ma réflexion entrepreneuriale avec la lunette féministe. J'ai commencé à voir là où certains des enjeux qui émergeaient dans mon entreprise, comment est-ce que je pouvais les adresser quand je le voyais aussi d'une façon un peu plus sociétale, un peu plus globale. Ça a l'air super abstrait comment je vous en parle, mais restez avec moi. Je vais vous guider à travers tout ça. Et ça va peut-être être un petit peu théorique, mais je sais que vous êtes capable de le prendre et que vous êtes des personnes intelligentes. Et que même si vous ne comprenez pas nécessairement partout là où ça s'en va, ça va cheminer en vous, puis il y a peut-être des choses qu'au fil du temps, vous allez commencer à faire émerger, puis ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et spécifiquement, je vais parler aujourd'hui du lien justement avec le marketing, avec le positionnement qui est de là où moi je venais quand j'ai commencé mon entreprise, sachant que, encore une fois, je viens avant ça d'un milieu académique qui est un milieu beaucoup plus axé dans les arts, les lettres et la philosophie. Donc, je pense que c'est intéressant de prendre tout ce bagage-là et de réfléchir autant à un niveau très concret, parce qu'on est des entrepreneurs et on fait des choses avec nos mains, avec nos cerveaux, et aussi systémique, parce que chaque action qu'on pose, on a quand même la responsabilité de l'impact qu'on laisse. Et comme vous savez, mon entreprise s'appelle Aime ta marque. Et une marque, oui, c'est un brand, dans le sens que c'est un terme en marketing, mais une marque, c'est aussi une empreinte. C'est quelque chose qu'on laisse derrière nous. Puis pour moi, quand on crée des marques, quand on crée des empreintes, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit le plus intentionnel possible pour que l'empreinte qu'on crée, bien, elle ne laisse pas derrière plus d'exploitation, plus d'oppression, ou justement, si on a des missions qui sont beaucoup plus axées dans le changement social. All right. Donc, je suis sûre que vous l'avez remarqué, hein, depuis les 10 dernières années, les coach business se sont multipliés, surtout sur le web, et surtout en période de pandémie où là, il y avait des départs massifs d'emplois, où il y avait eu des mises à pied, où les gens avaient beaucoup d'incertitudes et se sont tournés vers l'entrepreneuriat comme la solution un peu miracle, je dirais. Au point où j'ai l'impression, puis je le dis un peu en blaguant, mais au point où quiconque a réussi à faire quelques centaines de milliers de dollars avec un cours en ligne ou avec un service populaire, voilà qu'ils sont devenus des experts en entrepreneuriat. Et naturellement, cette multiplication des coach business, multiplication dont j'ai parlé dans plusieurs autres épisodes de podcast, en passant, si vous écoutez les plus récents, ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'étiquette que je m'appose moi-même, qui est de coach business féministe. Et suite à mes conversations avec mes collègues qui sont des chercheuses, qui sont des mentors, qui sont des spécialistes sur l'entrepreneuriat féminin, je me suis mise moi aussi à réfléchir à comment on peut réellement accompagner les femmes, mais pas que les femmes, là, on va utiliser femmes ici ou personnes qui s'identifient comme femmes, dans leurs projets entrepreneuriaux. Et au fil des discussions, une chose qui est revenue un peu unanimement, c'est l'importance de travailler l'être en parallèle de l'entreprise et de ses stratégies. Puis ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à ce que j'enseigne, c'est que oui, il y a les stratégies marketing, oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a la création d'offres, oui, il y a la tech, mais à travers tout ça aussi, il y a l'humain, il y a les humains avec qui on interagit, il y a les relations qu'on crée à travers tout ça. Et à ce niveau-là, il y a très peu, selon moi, de programmes, de contenus, de cours, peu importe, qui vont vraiment adresser le savoir-être. Donc ici, on parle de l'importance de travailler l'être en parallèle de l'entreprise, de ses stratégies et de ses outils. Et c'est là que, pour moi, il y a une convergence entre les concepts d'identité, qui sont, eux, liés bien souvent à des traumas. Et enfin, au fameux savoir-être entrepreneurial et comment il va évoluer par rapport à ça. Donc, adopter l'identité d'entrepreneuse, de leader ou de CEO, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts parce qu'on s'est réveillé un matin avec une idée d'entreprise. Moi, ça m'a pris énormément de temps avant de me considérer moi-même une entrepreneur. Je pensais que j'avais juste un blog, j'étais blogueuse, créatrice de contenu, consultante, blablabla, jusqu'à ce qu'un jour, je fasse comme « OK, genre, je pense que j'ai maturé dans mon rôle d'entrepreneur. » Et ensuite, il y a eu une évolution qui m'a permis de maturer dans un rôle de leader, de CEO, même si... On s'entend, si on ouvre le dictionnaire, écrit par des hommes blancs bien souvent, peut-être qu'on ne va pas se reconnaître dans ces définitions-là, mais le travail d'appropriation de ces identités, ben c'est ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, comme tout changement identitaire, c'est un chemin de transformation. Malheureusement, parce qu'historiquement, l'entrepreneuriat féminin n'était pas aussi encouragé et valorisé qu'il l'est aujourd'hui, on fait trop souvent... ce chemin de transformation identitaire seul, sous pression et à l'aveuglette. Et qu'est-ce qui arrive quand on est seul et qu'on est sous pression et qu'en plus, on entre dans des identités qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas eu beaucoup de représentations ou beaucoup d'exemples autour de nous pour nous montrer qu'est-ce que c'est de devenir un leader, qu'est-ce que c'est de devenir une CEO ou une entrepreneuse? On va se confronter invariablement à nos résistances et à nos limitations. Puis c'est pas de notre faute, c'est juste comme si j'ai jamais vu c'était quoi, par exemple, un couple heureux et uni qui avait des enfants en santé. Je vais répéter ce que j'ai vu parce que, tu sais, j'ai beau avoir de l'imagination, j'ai pas eu de modèle. Donc c'est un peu ce qui arrive, hein, on va se confronter à nos résistances, on va se confronter à nos limitations, puis bien souvent on va pas savoir exactement comment les dépasser ou quoi faire avec ça. Donc, quand on est une femme en situation d'oppression systémique, hein, une femme ou une personne en situation d'oppression systémique, puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est n'importe qui ne fait pas partie de l'identité dominante. Ces limites-là, ces résistances-là sont plus souvent qu'autrement liées à nos traumatismes ou traumas avec un grand T, T majuscule, trauma T majuscule ou trauma petit t, T minuscule, qu'il soit personnel ou intergénérationnel. Quand j'utilise le T majuscule ou le T minuscule, c'est juste pour dire que pas nécessairement hiérarchiser les traumas, mais c'est sûr qu'il y a des traumas qui sont des traumatismes qui sont vraiment considérés, bon, un traumatisme d'avoir vécu une guerre ou une famine versus le traumatisme de s'être fait ridiculiser dans la cour d'école. Ils sont deux traumatismes qui ont laissé des empreintes dans la personne qui les a vécues, mais c'est sûr que, bon, un traumatisme de guerre, on va plutôt parler de grand T versus petit T pour l'autre, sans pourtant invalider leur réalité. Et ces traumas-là, ben c'est ça, ils peuvent être personnels ou ils peuvent être intergénérationnels, c'est-à-dire qu'on va les hériter de nos familles, des personnes qui sont venues avant nous, qui nous ont élevés ou de la culture même qui vont, dans laquelle on évolue. De ce fait, parce qu'on n'a pas les mots ou les outils pour reconnaître, nommer et travailler avec ces traumas, on va perpétuer des modèles oppressifs avec ou dans nos entreprises. Et c'est quelque chose dont je parle un peu plus en détail dans mon épisode sur les archétypes traumatiques qui inhibent notre parcours entrepreneurial. Donc, je ne vais pas rentrer spécifiquement sur le mécanisme de tout ça, mais vous pouvez aller écouter cet épisode-là. J'ai mis le lien dans les notes de cet épisode. Et donc, les modèles oppressifs dans nos entreprises vont se décliner notamment dans nos modèles d'affaires, notre pricing, notre façon d'approcher les risques, et les investissements, les cadres qu'on va mettre autour de notre disponibilité, notre capacité, notre productivité et bien entendu notre marketing et la valorisation de notre entreprise. Hein, si on vient d'une famille qui a vécu de la pauvreté pendant des générations et que là, soudainement, on commence à vendre des services en ligne, il est fort probable qu'on ait quelque chose autour de l'argent ou autour de demander de l'argent ou autour de demander beaucoup d'argent ou même recevoir de l'argent qui pourrait être problématique parce que justement, dans nos traumatismes intergénérationnels, ben, il y a quelque chose de vraiment... établie autour de l'argent. Donc ça, c'est un exemple où en tant que femme, bien souvent, on va hériter de traumatismes autour de la visibilité, hein, de ne pas vouloir être vue, de ne pas vouloir parler plus fort que les autres, etc., ce qui est souvent un frein dans notre marketing. Donc, comment est-ce qu'on sort de nos schémas entrepreneuriaux oppressifs? Ce que je constate quand j'observe la façon dont les femmes, qu'elles en soient à leur première année en entrepreneuriat ou leur dixième année, c'est qu'elles ont beau accomplir davantage après année à année, elles restent prisonnières de schémas plus ou moins oppressifs. Bien entendu, il y a des personnes qui vont mieux vivre avec ces schémas oppressifs que d'autres. Il y a des personnes qui vont être capables de jouer la game traditionnelle un peu plus facile que d'autres, comme même dans un contexte salarié. Il y a des personnes qui vont... Il y a des femmes ou des personnes en situation d'oppression qui vont apprendre à mettre de côté leur personnalité et leur être, puis vraiment jouer du coude ou jouer dans des modèles plus masculins, disons, de leadership ou de compétition. Puis là, quand je dis masculin, je devrais plutôt dire traditionnellement masculin ou patriarcaux. Et c'est pas tout le monde qui va réagir négativement à ça. Cependant, il y a beaucoup de personnes pour qui ça va initier des réponses traumatiques. Et généralement, ces personnes-là qui ont le plus de difficultés à garder le cap dans des états de résistance soutenus, c'est les personnes qui sont soit neurodivergentes, rebelles, les personnes racisées, les identités visibles et invisibles qui sont considérées, entre guillemets, hors normes par l'identité dominante. Puis c'est là où l'approche systémique, hein, devient cruciale, parce que c'est utile de pouvoir reconnaître comment certaines réalités invisibles vont influencer l'expérience de l'entrepreneur, surtout si on a l'impression de constamment répéter les mêmes erreurs, entre guillemets, les mêmes schémas, de toujours se confronter aux mêmes portes fermées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir des schémas répétitifs qu'on répète malgré nous dans notre entreprise? On doit invariablement reconsidérer les règles du jeu en revenant d'abord et avant tout à nous-mêmes. C'est pour ça que pour moi, dans mon approche, c'est vraiment important de revenir à notre histoire, revenir à notre vision, notre pourquoi et notre contexte. Puis quand je dis contexte, ça peut être notre contexte familial, notre contexte social, mais aussi les différentes identités dont on a nommé. Puis dans le langage business, toutes ces affaires-là, histoire, vision, pourquoi et contexte, c'est ce qu'on appelle notre positionnement. Et là, c'est là qu'on va commencer à faire le lien justement entre cette réalité d'oppression systémique et ces identités qui nous mettent dans certaines situations traumatiques, et le marketing, le positionnement et l'entrepreneuriat. Donc, le positionnement, à mon avis, est au cœur du coaching business féministe. Parce que trop souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va considérer le positionnement comme quelque chose qu'on fait à nos débuts, hein, quelque chose que... on détermine quand on fait notre plan d'affaires, puis après ça, on l'oublie, puis c'est là si jamais on doit faire une demande de subvention. Puis après ça, c'est intégré, puis tu sais, la vie va bien, puis on vend nos services pour les 10-20 prochaines années. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe, hein. Mais bon, ça c'est, encore une fois, c'est une autre histoire, on va pas parler de combien de fois faut réfléchir à son positionnement et tout ça. L'affaire, c'est que au-delà de l'exercice stratégique purement commercial que nous invite à faire la réflexion sur le positionnement, cette réflexion-là, elle nous permet aussi de faire ressortir la matière brute, ou j'aime ça aussi appeler le carré de sable, avec lequel on joue. Hein, ce carré de sable, c'est lui qui va déterminer les résultats possibles auxquels on peut aspirer avec notre entreprise. Puis quand je dis les résultats possibles, ça veut dire que ben, notre positionnement, il va déterminer, par exemple, est-ce qu'on va vendre des prix high ticket ou on va vendre low ticket? Est-ce qu'on va travailler dans le volume ou est-ce qu'on va travailler dans l'intimité? Est-ce qu'on va viser... une certaine industrie où on va y aller plus généraliste. Hein, c'est le carré de sable, le positionnement va déterminer ce carré de sable-là. C'est donc un travail fondamental parce qu'il définit notre champ des possibles. Et donc, quand on arrive à un cul-de-sac avec notre entreprise, cul-de-sac qui peut être un épuisement, le manque de résultats, un ratio effort-bénéfice disproportionné, la perte de motivation, de l'essoufflement, de la confusion, du désalignement, etc., c'est vers ce travail qu'il faut se tourner, selon moi. Puis ici, c'est pas juste une question de redéfinir notre offre puis de refaire nos prix, nos avatars, etc., mais plutôt de réaffirmer notre identité entrepreneuriale en connaissance de cause, hein, parce qu'on sait qu'elle est influencée par nos intersections sociales et identitaires, et revenir à la dimension de l'être entrepreneur. Puis c'est ce travail qui peut alors tout changer de ce que j'ai observé dans mes groupes, avec les clients que j'ai travaillé. C'est ce travail qui, ultimement, va faire un effet domino et changer tout le reste en aval, hein, les résultats, les prix, etc., la clarté. Une fois qu'on a refait la réflexion autour de la dimension de l'être entrepreneur, c'est là qu'on va voir les résultats réellement changer parce que jusqu'avant, on travaillait en patch. Donc, quand je coach mes clients, ce que je cherche à identifier avant tout, c'est ce carré de sable, soit le nouveau carré de sable ou celui qui a été redéfini, si par exemple, on est dans un processus de pivot, parce que c'est ce carré de sable qui va offrir le cadre de progression pour le déploiement de la vision. Et cette vision, encore une fois, elle est très intimement liée à notre identité parce que certaines personnes ne vont jamais s'autoriser une certaine vision parce que justement, de par leur historique, de par leur contexte, de par leurs identités, ils se disent « c'est impossible pour moi de toute façon de, exemple, faire $1 million parce que, je sais pas moi, une personne... avec la trisomie 21 ne peut pas, genre, faire $1 million. Tu sais, mettons, parce que dans la... dans l'imaginaire collectif, c'est juste une impossibilité. Donc, c'est sûr que ces identités-là vont baliser aussi ce que chaque entrepreneur va s'autoriser aussi comme vision. Et donc, dans ce processus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les résistances qui existent dans l'être entrepreneur et qui se répercutent dans le modèle d'affaires, dans les systèmes de productivité, dans les relations entretenues avec les clients et dans l'approche au marketing et à la visibilité. Ça, c'est ma façon de voir la chose, hein, parce que les fameux blocages, hein, ils sont généralement tous là, à la source, le positionnement de l'entrepreneur qui est lui-même calqué dans les opportunités et possibilités que l'entrepreneur perçoit pour elle-même. Mais attention, c'est ici que ça se complique un peu parce que comme on travaille au niveau de résistance et autour de potentiels traumas, de limitations qui sont réelles parce qu'on ne va pas se mentir sur le monde dans lequel on vit, il y a des limitations, hein, c'est pas juste « si tu veux, tu peux ». Mais il y a aussi des limitations qui sont imaginaires, donc des choses qu'on continue à perpétuer parce qu'on a l'impression que c'est la réalité. On ne peut pas toujours approcher le problème par le biais rationnel cognitif ou bien par le côté plus stratégique pur et dur. Il faut être plus rusé que nos injonctions et que nos conditionnements internalisés. Et c'est là qu'on en arrive avec le coaching féministe qui va nous permettre de déjouer les conditionnements capitalistes patriarcaux. Donc, c'est ici que l'approche autour du coaching féministe et celle que moi j'ai développée en ayant cherché aussi l'intelligence somatique et l'intervention de l'inconscient. Hein? Puis là, ça, encore une fois, c'est un autre épisode, mais j'aime appeler l'inconscient ici la matière noire de notre psyché. C'est là qu'on va permettre de travailler autour de ces blocages et de les dépasser éventuellement. Parce que comme on veut désamorcer les résistances à la source, on doit être en mesure de travailler à la source. C'est ce qui, par la suite, va nous permettre d'engendrer des changements au niveau de notre offre, des systèmes, des stratégies qui vont alors correspondre à une cohérence renouvelée. Et cette cohérence, elle va plaire autant à notre cerveau qu'à notre système nerveux. Et qui dit système nerveux heureux dit aussi plus de créativité, plus d'énergie, plus de succès en tout et pour tout, qu'il soit financier ou en termes de notoriété ou de longévité. Donc là, je vous ai fait un espèce de gros topo parce que, en gros, comment ça fonctionne, c'est que une fois qu'on a établi cette sécurité interne, cet état de cohérence, c'est alors qu'on peut facilement appliquer n'importe quelle stratégie marketing, modèle de pricing, whatever ce qu'on veut implémenter, car il n'y a plus de blocage au niveau de l'être entrepreneur. Et c'est cette approche effectuelle de l'entrepreneuriat qui va nous mener vers des résultats durables et alignés. Et ben, selon moi, et surtout avec les personnes avec qui je travaille, hein, dans un monde où la majorité des systèmes financiers sont basés dans la surconsommation et l'exploitation, entreprendre selon un nouveau paradigme, c'est plus que juste une expérience philosophique, c'est devenu une question de survie. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est un peu théorique comme je vous le présente, mais je voulais prendre le temps de vous établir comment toutes ces parties-là fonctionnent ensemble. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important qu'on ait un aspect conscientisé au trauma? Pourquoi je trouve que c'est important qu'on ait une grille de lecture féministe? Pourquoi je trouve que c'est important qu'on comprenne le lien entre la visibilité, le marketing, le positionnement et toutes ces choses-là, et pourquoi c'est important qu'on en revienne avec les histoires personnelles, la vision des entrepreneurs. T'sais, comment est-ce que toutes ces pièces-là travaillent ensemble pour qu'on puisse approcher le coaching ou l'accompagnement entrepreneurial d'un point de vue holistique qui ne va pas laisser de côté la personne, qui ne va pas laisser de côté l'être et qui va nous permettre d'intervenir d'une façon beaucoup plus juste et pleine de compassion, mais aussi avec le moins de détours possible parce qu'on ne veut pas travailler dans la résistance. Alors voilà ce que j'avais pour vous. Si jamais, ça vous intéresse d'en savoir plus, vous allez voir, j'ai beaucoup de contenu qui parle de différentes dimensions de cette approche-là, autant quand on parle des traumas, du système nerveux, du soin collectif, du positionnement même. Et pour moi, c'est important qu'on se dirige dans cette direction-là, puis c'est vraiment là que je veux, moi, laisser une marque, c'est de comment est-ce qu'on s'accompagne dans un contexte qui est aussi complexe, mais aussi qui a besoin d'être mis en lumière pour être vraiment accueilli et pour qu'on puisse prendre soin des êtres entrepreneurs alors que elles font des choses qui sont quand même risquées. Elles font des choses qui vont demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail aussi sur soi. Puis ça, c'est pas vrai que c'est quelque chose qu'on laisse complètement de côté quand on focus sur des problèmes d'affaires. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, laissez-moi un 5 étoiles dans votre plateforme d'écoute préférée pour aider les autres à découvrir le podcast. Et s'il y a quelqu'un que vous pensez qui devrait entendre cette entrevue, envoyez-lui et je vous envoie toute ma gratitude pour ça. On se dit à la prochaine! Hey, salut l'ambitieuse! Je me suis dit que si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu sois intéressée à plonger au cœur de ton identité de marque. Et pour ça, il n'y a pas d'autre place qui est plus adaptée que de mon programme Money Brand. Dans ce parcours qui a aidé des centaines de leaders, coachs, consultantes, créatrices et professionnels du service à retrouver sérénité et sens dans leur aventure entrepreneuriale, on y parle d'offres, de marketing, de positionnement et de visibilité, mais toujours à partir du spectre de la cohérence interne et de l'efficacité énergétique. On y construit des environnements qui vont prioriser l'être au-delà du paraître. Et les anciennes participantes, qu'elles aient suivi d'autres programmes auparavant ou non, étaient unanimes. C'est complètement différent de tout ce que tu pourrais avoir expérimenté par le passé. Donc, si tu es intéressé à travailler de cette façon dans ton entreprise pour changer complètement de paradigme et commencer à transformer tes revenus, ton lifestyle et tes communautés pour qu'elles correspondent davantage à ta vision, la première étape, c'est d'envoyer ta candidature. Tu vas ensuite être transporté vers mon atelier privé sur comment te faire voir, connaître et reconnaître grâce au web sans y laisser ton temps, ton argent ou ta personnalité. Je t'y parle aussi de la méthodologie Money Brand et de tout ce que ça inclut quand tu nous rejoins dans cet espace. Donc, n'hésite pas, il n'y a aucune obligation à envoyer ta candidature. Tu vas avoir toutes les cartes en main ensuite pour prendre une décision souveraine et éclairée. Pour envoyer ta candidature pour Money Brand, c'est à mtamarque.com/moneybrand et Money Brand, ça s'écrit M-O-N-E-Y comme money et Brand, B-R-A-N-D. Money Brand, à bientôt!